j'étais un jeune homme, j'avais une petite voiture. Et c'était ma première, et il a fallu la réparer, que je fasse un voyage de 2 jours. Je l'ai amené au garage, et en sortant du garage, la veille, j'ai glissé sur une plaque de givre noire que je n'ai pas vue. Et je me suis la voiture est entrée dans la voiture devant moi, à mon grand chagrin. J'avais dû faire d'autres plans pour mon voyage, j'ai dû sortir par la fenêtre, et voici, j'ai laissé ma voiture encore au garage pour des réparations. En téléphonant à la police, je les ai prévenus, il y a la glace, il y a du givre noir, on ne voit pas, attention, une plaque noire. Alors, la police arrive doucement et paf, entre encore dans ma voiture. Il y a des circonstances dans la vie qui nous arrivent, qui sont parfois au-delà de notre portée, au-delà de notre contrôle. Et pas où nous sommes là que pour rester accrochés ou gérés. Et dans le dernier livre de la Bible, à l'Apocalypse, nous comprenons comment Dieu souverain que nous avons chanté ce matin, l'agneau qui est sur le trône, ou celui qui donne la victoire, que nous gardons la cape, nous gardons la perspective parce que le Christ est celui qui dirige, c'est celui qui est sur le trône. Et chacun de nous a dû faire face dans ses choix et nous sommes mis à l'épreuve, à savoir garder le cap, à savoir garder pour avoir cette victoire et ne pas s'en détourner. Donc à cette époque, les chrétiens étaient rudement éprouvés par l'empereur Domitien et il les jetait en prison, il en tuait aussi. Donc eux, ils savaient qu'il fallait s'accrocher dans leur foi. Et je crois que parmi nous aussi, il faut s'accrocher. Il y a des circonstances naturelles, il y a des épreuves, mais il y a aussi parfois des persécutions qui nous tombent dessus. Comment faire? Dans un monde où ce n'est pas toujours facile d'être chrétien, comment faire pour viser, pour rester avec les yeux sur le Christ, pour garder jusqu'au bout, une foi grandissante, une foi qui veille, une foi qui a cette victoire, même quand les circonstances passent au-delà de notre contrôle. En rentrant vendredi soir de la cellule de prière pour le groupe de maison, et je me réjouis d'avoir été avec les frères et les sœurs et d'avoir pu voir en famille Lily et Igor, ce sont des grands moments aussi pour être ensemble, ou le jeûner pour prier. Mais en sortant en famille, on avait notre dernier enfant, et 2 chiens grondants sont venus à notre rencontre dans le couloir, à notre surprise. Et notre dernier a crié, « Papa, prends-moi !» Et comme je menais le chemin, j'étais devant, j'ai barricadé devant ces mollusques avec la guitare, parce qu'ils grondissaient, et on a voit que trop souvent ces histoires de chiens qui menacent, qui font mal. Donc, j'ai barricadé le chemin. Et bien qu'on m'appelle derrière, mon objectif était de ne pas quitter des yeux ce qui menaçait. Si je me retourne, je risquais de me retrouver surpris. Et quelque part, quand ce qu'on craint attire notre attention, des circonstances, des difficultés, ce qui gronde dans notre vie, qui menace, attire notre attention. Mais nous devons avoir les yeux fixés sur le Christ, sur Dieu. Et c'est ça ce que je comprends par l'expression « crains Dieu ». En tout cas, ici, en Apocalypse, et dans nos vies, j'espère, de par cette réflexion dans les quelques églises, que nous apprendrons Comment garder les yeux fixés sur l'essentiel, de ne pas le laisser surprendre par le secondaire, ce qui gronde, ce qui menace, pour qu'on ne soit pas aussi détruit ou abîmé dans notre vie. Tournez avec moi en Apocalypse, au livre d'Apocalypse, chapitre 2. Nous apprendrons les paroles du Christ à ces dernières églises. Apocalypse, au chapitre 2, les versets 8 à 29, il y a trois églises. À cause du temps, peut-être que je ne prendrai pas le temps de lire le texte, sinon si, je crois que c'est une bonne idée. Je demande à quelqu'un de venir nous lire devant, s'il vous plaît, pour une bonne édition. Quelqu'un, là, tu es là?
Il y a vraiment besoin de ça?
Peut-être pour le fond de la salle, je ne sais pas que tu...
Vous m'entendez?
Oui.
Écris à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que déclare celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta détresse et ta pauvreté, mais en réalité tu es riche. Je sais le mal que disent de toi ceux qui se présentent juifs, mais ne le sont pas. Ils sont une assemblée de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Écoute, le diable va vous mettre à l'épreuve en jetant plusieurs d'entre vous en prison. On vous persécutera pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de victoire, la vie éternelle. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Ceux qui auront remporté la victoire ne survivront pas la seconde mort. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que déclarent ceux qui possèdent l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, là où Satan a son trône. Tu es fermement attaché à moi et tu n'as pas renié la foi en moi, même à l'époque où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. Cependant, j'ai quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam. Celui-ci incitait Balak à tendre un piège aux Israélites en les poussant à manger de la viande provenant de sacrifices offerts aux idoles et à se livrer à l'immoralité. De même, tu as également chez toi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc d'attitude, sinon je viendrai à toi bientôt et je combattrai ces gens avec l'épée qui sort de ma bouche. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. À ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai de la manne cachée. Je donnerai aussi à chacun d'eux un caillou blanc sur lequel est inscrit un nom nouveau que personne ne connaît à part celui qui le reçoit.
Merci. Donc, et encore, c'est la ligne. C'est bon. Donc, pour ces... Il y a trois tableaux, trois églises. Une église persécutée, une église qui a été tentée à céder sa bonne doctrine pour un amalgame d'autres choses, et une église compromise à cause du commerce dans la ville. Et ces trois aspects peuvent aussi nous affliger, ou on peut être appelé à faire face à ces trois éléments de nos jours. La diffamation ou la persécution sous une forme, sous une autre. D'être tenté de mélanger ou de céder ce qui est écrit dans la parole de Dieu pour autre chose, pour plus de choses. Et puis, le commerce qui implique une pression, une culture autour de nous. Rapidement, j'aimerais que nous retrouvions, que nous fortifions pour avoir cette victoire et cette prise quand le monde nous tombe dessus sur ces trois formes. Regardons la première situation. L'Église persécutée. Comprenons d'abord la situation de cette Église, de Smyrna. Ces sept églises étaient autour d'Éphèse. Éphèse était la ville majeure en Asie mineure, et son peuple avait parlé de Jésus-Christ. Et éventuellement, Dieu a créé six autres églises. Donc les sept églises sont des églises qui se connaissent. dans un cercle ici autour. Et Smyrne, donc, est une église persécutée parmi ces six. Une ville de 100 000 habitants à l'époque, une grande église, dans un port maritime. À 193 avant Jésus-Christ, Tibérius permettait à cette ville l'honneur d'avoir un temple dédicacé à l'empereur Auguste, à sa mère Livia et au Sénat. Donc, cette ville était donc le gardien du temple de l'Empire romain. Il y avait donc des puissances occultes ou néfastes. Il y avait un défi contre ceux qui voulaient s'attacher à Jésus-Christ. Sur l'égide de Lutte dans l'empereur, ils sont venus à l'encontre des chrétiens. Ils ont jeté plusieurs en prison à cause de leur position pour Jésus-Christ. Il y en avait qui étaient même passés par la mort. Et de nos jours, certains frères et sœurs dans d'autres pays, en Indonésie, en Égypte, dans le Moyen-Orient, souffrent énormément pour leur foi, ou en Nigeria, à cause de leur prise de possession. Donc, nous pouvons aussi, en France, faire face à la persécution, à l'emprisonnement, à la mort, mais il y avait une autre forme. Regardons où Jésus-Christ leur dit au verset 9, je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Ce n'était pas qu'une persécution physique, mais aussi économique, où les meilleurs postes et positions étaient ôtés des chrétiens et donnés à ceux qui pouvaient jouer le jeu. Et dans notre situation économique et financière, parfois, il va falloir qu'on garde les yeux fixés sur le Christ et qu'on ne se permette pas de mener une vie compromise, alors qu'ici, le peuple est même attribué d'être pauvre à cause de leur prise de position. Et pourtant, Jésus-Christ leur dit riche, parce qu'ils ont l'éternité, ils ont le Christ, ils ont Dieu avec eux, ils ont une richesse qui est éternelle, une richesse donc qui est au fond de leur vie. Une richesse qui est claire, mais qui coûte. Jésus se présente à cette église. Et pour chacun de nous, quand nous sommes face à cette diffamation, comme il est dit, où les Juifs ont diffamé et amené les chrétiens devant les tribunaux en disant, ils ne sont plus des Juifs. Ils n'ont pas le droit d'être protégés par la loi romaine. Ils sont une secte. Et puis ils ont livré aux autorités romaines pour être emprisonnés et même mis à mort. On peut avoir aussi des gens qui nous taxent de sectes, des gens qui veulent opprimer économiquement ou qui veulent aussi diffamer vous-même ou votre nom en tant que chrétien. Jésus-Christ se présente à cette église. Il leur dit, dans le verset 8, je suis le premier et le dernier. C'est le Christ que nous suivons, qui est le premier, qui sera donc nos élèves et qui sera le protégé. Celui qui était mort, qui est revenu à la vie, sois fidèle à la mort, jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Une couronne de vie, à l'époque, était une expression prise des contests athlétiques, où ceux qui gagnaient étaient couronnés après leurs efforts par un lauréat. Une couronne de vie, donc, parfois était suspendue sur leur tombeau ou mise avec eux en tombe. Mais c'était périssable, cette couronne. Alors que le Christ donne à ceux qui sont pour lui, même quand il y a des situations défavorables, qui sont diffamées ou qui sont découragées à cause des situations économiques, ils ne veulent pas tricher, ils ne veulent pas jouer les coudes ou ils ne veulent pas outrepasser la loi de Dieu ou la conscience. Et le Christ dit oui, je le donnerai, moi, le premier, moi, celui qui est vivant, cette couronne de vie. Nous avons chacun de nous cette promesse d'un Christ qui veut nous conduire vers une victoire. Si c'est votre cas ce matin, d'être persécuté, diffamé, mis en placard, découragé à cause d'une situation pour suivre le Christ, prenons courage. Soyons fidèles à Christ, soyons fidèles à lui. Et il nous donnera une couronne de victoire. Il laisse des situations. Nous lisons que c'est pour 10 jours qu'on le jette en prison. C'est un chiffre rond. Mais c'est Dieu qui contrôle le temps et les circonstances et les PDG et ceux qui se donnent le droit de persécuter ou de délimiter. Nous, nous devons rester fidèles. Et c'est Dieu qui couronnera, Dieu qui donnera sa promesse. Première Église, persécution, oppression. Prenons courage, soyons fidèles pour que Dieu, il nous donne sa couronne, que lui-même, il donne sa victoire dans notre vie. Deuxième Église, l'Église à Pergame, versets 12 à 17. C'est une Église compromise par cette position de doctrine, où ils avaient mélangé la Bible avec autre chose. Et c'est vrai que de nos jours, on peut trouver d'autres livres, on peut trouver d'autres standards, on peut parler d'autres livres humanistes ou même des livres de foi. Et pour eux, ils avaient trouvé une façon de se compromettre. Au verset 14, nous lions verset 13. « Je retiens mon nom, tu n'as pas renié la foi. Mais il y a parmi vous, verset 14, certains, j'ai contre toi cette grève. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam, une autre doctrine. C'est une image qu'on va expliquer. Il a enseigné à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, toi aussi, les gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes, repens-toi donc, sinon je viendrai. À toi bientôt. » Ici, c'était une église qui avait parmi elle une fausse doctrine et qui a cédé. La première base de notre foi, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi c'est capital que nous la lisions, que nous la connaissions, que nous prenions, soyons fermes dans notre connaissance, que nous ne nous laissions pas détourner par d'autres aspects, d'autres éléments, d'autres soi-disant foi ou de connaissance, doctrine, pour que nous soyons clairs. Ils sont allés plus loin. Cette Église s'était livrée à la doctrine de Balaam, qui était une image d'un faux prophète qui a maudit Israël et qui a amené des personnes moabites, des femmes, pour qu'après, on conduit la débauche, on commet la débauche avec ces personnes. Donc c'était un compromis complet, à la fois spirituel, mais à la fois aussi moral. Nous devons donc faire attention de rester fermes, jeunes personnes. Restons purs, gardons ses yeux fixés sur Jésus-Christ, pour que lui-même, il vous donne le conjoint, la conjointe de son choix, pour vous bénir richement. Nous ne nous laissons pas séduire ou détourner par ce qui est écrit par parfois, « Oh, vous savez, ça n'a pas d'importance, vous savez, vous pouvez quand même. » Il y a d'autres voies. Nous devons prendre position clairement sur la parole de Dieu pour nous attendre à ce que Dieu pourvoie, bénisse, et pour nous tous de connaître la parole de Dieu, de prendre position clairement sur Dieu lui-même, pour que lui-même y conduise. Le Christ est sérieux ici, verset 16, « Repends-toi, sinon je viendrai à toi bientôt, je les combattrai, avec l'épée de ma bouche. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée, une soutenance spirituelle pour vous fortifier, pas de fausses doctrines, mais de la vraie, qui nourrit vraiment. Et aussi un caillou blanc, ce qui est écrit, sur lequel est écrit un nouveau nom, c'est-à-dire un nom nouveau, où Dieu lui-même, il nous connaît. Il nous conduit vers lui, pour le connaître. Le caillou était parfois utilisé dans le temps, cassé, pour entrer dans les sociétés secrètes, les confréries. Peut-être que c'était ici l'allusion à cette secte qui voulait dévier, qui voulait quitter la bonne doctrine, qui voulait aller vers ces autres croyances. Et ils avaient donc ces petits caillots secrets pour l'admission. Vous montrez ça à la porte, on vous laisse entrer. Et Jésus dit non, c'est moi qui vous donne le droit d'entrer. C'est moi qui vous donne la force. Reste donc fidèle à Jésus-Christ. Attention aux fausses doctrines. Connaissons la Bible. La troisième église est aussi intéressante. C'est toute une église en situation très délicate. C'est toute une église compromise par le commerce. Et nous, de nos jours, il y a une pression énorme sur nous pour acheter. Vous recevez tous la même publicité que moi. Nous conduisons, nous lisons, voyons les panneaux publicitaires, nous avons des spots télévisés, et si vous n'avez pas le MP3, le dernier cri, le dernier marque de basket, la voiture qui roule autrement, vous n'avez pas la possibilité, ou vous êtes en ce quelque part inférieur. C'est ça le message que nous entendons. C'est subtil. Mais Dieu, lui, il veut qu'on garde le cap, les yeux fixés sur ce qui est éternel, ce qui est important, ce qui transcende, c'est ce qui nous gardera jusqu'à la fin. À cette église, un peu plus compliquée que les deux premières, ils se sont compliqué la vie, à Thyatire, parce que c'est une ville de commerce, avec des syndics. Ils ont construit pas mal de choses, ils ont bâti pas mal de choses. Ils avaient des fournaises et un commerce qui criait. Et à cause de cela, les chrétiens, s'ils ne faisaient pas partie de la syndic, ils étaient exclus. Et donc, c'était une situation assez difficile. C'était des personnes qui soit entraient pleinement, à plein pied, dans le commerce, soit ils étaient écartés et lésés dans leur situation économique. Mais cette situation économique n'était que la carotte. Derrière, il y avait tout un train qui suivait. Et ceux qui ont pris, qui ont mangé l'hameçon, qui ont pris l'appât pour la situation économique, se sont trouvés piégés par plein d'autres choses. Un train pour en cacher un autre. Jésus dit à cette église, il se présente déjà, comme eux ils avaient une fournaise qui criait l'entreprise et pas mal de choses, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Il se présente comme celui qui est aussi connaît la fournaise. Il est celui qui est passé pour la fournaise et qui est prêt à attribuer à chaque personne selon ses œuvres. Verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Une bonne église. Il y avait le monde, il y avait des entrepreneurs, il y avait des personnes quand même aussi compétentes. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, encore une image qu'on va, je peux vous expliquer, qui te séduit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné le temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Voici, je la jette sur un lit ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qui ne se repentent de ses œuvres. Je frapperai de mort ses enfants, toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire, qui n'ont pas cette doctrine et n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan, je le dis, je ne mets pas sur vous d'autre fardeau. À comprendre tout simplement que cette église, de par ses attaches à ses commerces, est invitée aux fêtes de ses commerces. Et dans ces fêtes ou commerces, on a mangé la viande, mais on mange la viande sacrifiée à leur divinité, à leurs idoles. Et puis, on était dans le temple avec ses autres divinités, et il y avait aussi souvent la débauche qui en est découlée. Pour nous, nous devons simplement avoir les yeux ouverts pour le commerce. Je sais, en écoutant plusieurs cadres, certains parmi vous, d'autres qui sont étaient parmi nous, d'autres de la famille, qu'il y a une pression assez féroce sur les personnes dans les affaires. Je sais aussi, comme quelqu'un m'a expliqué, qu'on est comme un citron. Et quand on n'a plus besoin, on jette. Je sais qu'on pourrait arriver. Peut-être que vous avez une boîte qui vous casse bien. Peut-être que vous avez un employeur, peut-être que vous êtes employeur vous-même, et vous faites bien. Vous soignez les personnes. Mais nous comprenons aussi que le commerce, les entreprises sont parfois très, très dures avec les employés. Et si c'est ça notre cas, mettez des barrières pour vous protéger. Mettez des limites, des marges, pour qu'on ne vous presse pas. Gardez devant vous ce qui est le plus important. Le Christ, c'est lui qui nous aime. C'est lui qui nous donne la vraie vie. C'est pas au champ. C'est lui aussi, apprenons à être satisfaits. Détrompons-nous. Gardons les yeux pas sur les choses, mais sur celui qui a tout créé. Et un jour, nous passerons de l'autre côté. Et que notre argent, notre attache à ce monde soit investi pour éternité, pour avoir une vie qui tient la route, la distance, et pas pour les choses qui vont se casser en 3 ans. Protégeons-nous donc. Mettons autour de nous un petit marge. J'ai lu dans un journal un article rafraîchissant par quelqu'un qui n'avait pas de DVD, de lecteur DVD, qui n'avait pas d'MP3, dont la voiture était déjà assez âgée, et qui expliquait que lui et sa femme se sont mis d'accord pour ne pas courir après la dernière tendance, mais de rester satisfait sur ce qu'ils avaient. Autant que ça durait, autant que ça pourrait permettre de jouer, de travailler, qu'eux, ils se satisfont. Et ça m'a, dans son humilité face à toute cette pression autour de nous, ça m'a encouragé. Quelque part que je pourrais aussi faire un choix. De délaisser certaines choses pour que je mette mon argent et mon temps et mon énergie à me satisfaire dans un monde qui est passager et de me permettre donc de vivre avec moins. Nous avons tous des limites. Nous sommes tous sollicités. Nous sommes tous aussi tentés même de nous endetter. Mais essayons de mettre une marge autour de nous, une limite pour nous protéger. Parce que derrière le commerce, il y a parfois aussi des idoles à adorer d'autres choses et d'autres valeurs et à nous compromettre. Et si vous êtes dans les affaires, que vraiment Dieu vous garde. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est parfois même bien difficile. Et c'est là où parfois même nous serons appelés à faire un choix ou des choix qui amèneront même parfois un sacrifice. N'ayons pas peur. Regardons ce que le Christ a dit à cette Église, qui était tentée, bousculée, poussée. Il dit au verset 25 du chapitre 2, « Seulement ce que vous avez, tenez-le ferme, jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. » Les nations qui veulent séduire, les gens qui veulent vous dire, mais vous savez, c'est meilleur en dehors. Et lui, il dit, Christ, je vous donnerai autorité sur les nations. Restons fermes dans notre position, dans notre fond, ne nous laissons pas écarter par une pression économique ou autre. Et puis, il ajoute, verset 27, avec un sceptre de fer, il fera paître, comme on brise les vases d'argile, ainsi j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père. Gardons les yeux fixés sur celui qui fera la différence, sur celui qui mènera notre vie à la victoire éternelle et pour le bien. Et verset 28, et je lui donnerai l'étoile du matin, qui est une allusion à Vénus, que l'armée romaine aspirer, aimer pour la victoire et pour l'autorité. Et Christ dit, je le donnerai, la vraie étoile, la vraie autorité, celui qui a le pouvoir de régner sur les nations et pour l'éternité. N'ayons pas peur donc. Les situations économiques, la persécution, la diffamation, ou même ceux qui proposent d'autres chemins, restons fermes. Jésus nous le dit. Celui qui était mort et qui est vivant. Celui qui est le premier et le dernier. Qui vive, qui règne dans nos vies. Pour nous permettre d'avoir cette victoire et d'être libre. Oppression de ce monde. De ne pas nous détourner. Le plus vite, le plus fort, la plus belle. Attachons-nous à Jésus-Christ, que lui-même, il vive, il agisse, il donne la victoire qui est la sienne, une victoire qui le glorifie. Attention de ne pas tomber. Sommes-nous prêts? Sommes-nous, avons-nous calqué notre vie sur la victoire, pour la victoire? Sommes-nous prêts? Quand il y a les choix éthiques, et nous sommes obligés de choisir. Sommes-nous prêts à bien choisir? Sommes-nous entourés, gardés prêts pour la victoire? Ici-bas, pour nous, pour d'autres. Que Dieu nous aide, que Dieu nous pardonne, là où nous avons mis un pied. Alors, nous avons permis d'entretenir des pensées ou des idées, ou même des compromis. Donc, notre façon de vivre, qui ne vont pas nous conduire vers une victoire. Que Dieu nous parle, qu'il nous aide. Nous sommes dans une bataille spirituelle, pour vous-même, pour votre famille, pour une église, où nous serons parfois harcelés par une diffamation. On va vous parler de culte, de secte, alors que nous suivons Jésus-Christ, tout simplement. Nous revenons comme les premiers apôtres à sa parole. Où les gens vont essayer aussi de vous détourner, ou vous solliciter pour autre chose, ou mettre la pression sur vous, ou sommes-nous prêts, que ce soit prêts dans nos cœurs, pour bien agir, bien répondre, où est la réussite, où est la vraie victoire. Soyons clairs, prêts, à nous munir. Ce n'est pas la position, c'est passager. C'est le Christ qui a toute autorité. C'est le Christ qui est le premier, et c'est lui qui est le dernier. C'est lui qui régnera. Soyons prêts donc, dans nos cœurs, à nous attacher à celui qui seul donne la victoire, la vraie. Que pouvons-nous sacrifier pour ce monde et être et perdre son âme. Que vous vous ne sacrifiez pour le Christ et tout gagner. Si regardons vers la fin, où le Christ nous rappelle, de par l'Apocalypse, comment sortir vainqueur, comment bien vivre, comment bien faire asseoir ses choix, bien se préparer pour la victoire. C'est ce qu'il veut pour son peuple que nous sommes. Je vous invite à prier. Père éternel, tu nous connais, chacune de nos vies, chacun de nos cœurs. Et je te loue pour toi-même parce que tu as vaincu. Et je te remercie aussi parce que tu parles à ton Église encore. Et pitié de nous, là où nous avons cédé, pardonne-nous, relève-nous, pour que nous soyons fermes dans notre attache à Jésus-Christ, pour que celui-là, seul, il nous conduit vers une victoire certaine et sûre, et nous à ne pas être détournés par les sollicitations, par les pressions, et nous être fermes à garder, à tenir ce que nous avons comme foi en Jésus-Christ, jusqu'à la fin, pour que lui-même, il couronne, pour que lui-même, il donne autorité, pour que toi-même, tu donnes ce nom précieux d'accès, d'entrée chez toi, pour participer à ta victoire éternelle sur le péché, mais aussi sur la mort, et aussi sur cette vie. Conduis-nous, prends nos vies de nouveau, fortifie chacun de nous et règne en nous pour que toi-même tu aies la gloire par nos vies et nous aussi avoir la force en gardant les yeux sur Christ d'ainsi être un témoin de Jésus-Christ pour dire aux autres avec des occasions qui seront présentées où est la vraie vie, celui qui tient la vraie victoire, celui qui a la vraie autorité. C'est dans son nom que nous te prions. Amen. Amen.